le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bon dimanche. Voici le sommaire de cette édition. Tous les groupes armés opérant dans l'est de la RDC appelés à déposer les armes, appel de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Wangxia. Il s'est exprimé ainsi mercredi 27 avril lors de son exposé devant le Conseil de sécurité. L'économie du message du diplomate onusien dans cette édition. Lutte contre les discours de haine en Afrique centrale. Bangui, capitale de la République centrafricaine, a abrité cette semaine un forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des médias. Du 26 au 29 avril, des professionnels des médias numériques de 11 pays de la sous-région étaient à l'école pour apprendre comment prévenir et lutter contre les messages d'incitation à la haine. Impliquer pleinement les acteurs locaux dans les actions humanitaires pour plus d'impact, la problématique était au centre d'un double atelier organisé à Goma et à Kinshasa à l'initiative de l'ONG internationale Street Child. Le rendez-vous du chef-lieu de la province du Nord Kivu a déjà eu lieu jeudi dernier et celui de la capitale congolaise est prévu le 5 mai prochain. Dans cette édition, le magazine des Nations Unies reçoit le directeur régional de Street Child pour décrypter cette problématique. Ce sont là les principaux sujets de ce dimanche. Le développement, c'est tout de suite.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à ce magazine. Nous ouvrons cette édition par le volet sécuritaire. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Wangxia, demande à tous les groupes armés opérant dans l'est de la RDC de déposer les armes. Il a lancé ce message mercredi dernier lors de son exposé devant le Conseil de sécurité. Wangxia s'est par ailleurs félicité de constater une dynamique encourageante de dialogue, de coopération et d'intégration au niveau de la sous-région, ainsi que d'une volonté générale et continue de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. D'autres détails du message de l'envoyé spécial avec Blaise Makassi.
Wangxia, qui présentait le dernier rapport en date du secrétaire général de l'ONU portant sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, a déploré que les ADF et d'autres groupes armés locaux continuent de commettre des atrocités contre les populations civiles. Cependant, il s'est réjoui de la dynamique encourageante de dialogue, de coopération et d'intégration, et plus généralement, d'une volonté continue de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. Selon lui, cette dynamique positive a été perturbée par la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, exacerbée par la reprise des activités militaires de la rébellion du M23 durant les derniers trimestres de l'an dernier. Wangxia a indiqué que les ADF semblent toujours bénéficier d'un réseau de recrutement dans la région, voire au-delà, comme l'ont confirmé certains capturés lors des opérations conjointes de la RDC et de l'Ouganda. En dépit de cette fragilité sur le plan sécuritaire, l'envoyé spécial s'est dit convaincu qu'il est encore possible de consolider les acquis importants enregistrés à ce jour dans la région et d'avancer progressivement vers une paix durable. Béni, Blaise Makassi, Radio Capi.
Des Grands Lacs à l'Afrique centrale, il n'y a qu'un pas. Rendons-nous alors à Bangui, capitale de la République centrafricaine. Il s'est tenu du 26 au 29 avril 2022 dans cette ville un forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des médias sur la prévention des conflits liés aux discours de haine et la lutte contre ce phénomène en Afrique centrale. Des journalistes responsables des médias numériques de 11 pays de la sous-région s'y sont retrouvés à l'initiative de l'ONU à travers ses émissions de paix dans la sous-région. Pamela Louba qui était à ce forum. Suivez ce reportage de la première journée.
Organisé par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale UNOCA et la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, ce deuxième forum, qui fait suite à celui tenu à Douala au mois d'octobre 2021, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine lancé le 18 juin 2019 par le secrétaire général Antonio Guterres. Le forum va être aussi une plateforme de réflexion et de sensibilisation au cours de laquelle plusieurs communications de chercheurs, universitaires, éditeurs, journalistes, responsables des organes de régulation, partenaires gouvernementaux, représentants du système des Nations Unies et de la commission de la CEAC vont être articulés autour des questions de l'ampleur du discours de haine dans les médias en ligne d'Afrique centrale, son impact négatif sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale, les dispositions légales et réglementaires en la matière, les enjeux éthiques et déontologiques, la responsabilité sociale des journalistes, les perspectives en termes de régulation et de l'autorégulation. Depuis Bangui, Pamela Loubaki pour Radio K. Okapi.
Quittons la Centrafrique pour revenir ici en RDC où une délégation de hauts cadres des Nations Unies était en mission cette semaine. Il s'agit d'une délégation de membres de la 5e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, une composante qui traite toutes les questions administratives et budgétaires de cette organisation mondiale. La délégation onusienne a rencontré différents responsables congolais à travers le pays. Mais c'est quoi exactement la 5e commission de l'Assemblée générale de l'ONU et quel est son rôle? Éclairage avec Cynthia Bachizi.
La 5e commission, c'est un peu l'équivalent d'un ministère de budget. Constitué d'un panel d'experts, cette composante élabore annuellement des projets de rapports budgétaires adressés à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est cet organe composé de tous les pays membres de l'ONU qui approuve en définitive le budget de fonctionnement de l'organisation, mais aussi celui des opérations de maintien de la paix. Le tout en fonction du mandat fixé par le Conseil de sécurité. Il faut donc préciser que ce ne sont pas les responsables au niveau local qui décident du budget d'une opération de maintien de la paix. Et c'est en cela que la visite des membres de la 5e commission est stratégique, en ce sens qu'il faudra ainsi évaluer les défis financiers, administratifs, logistiques auxquels fait face la MONUSCO pour atteindre ses objectifs. Bien évidemment, au regard du contexte actuel marqué par le processus de retrait de la MONUSCO dans le Tanganyika, où les agences onusiennes devront prendre le relais. Ensuite, dans le Nord Kivu pour jauger les efforts qui restent encore à déployer pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Autre question, quel rapport le Conseil de sécurité entretient-il avec la 5e commission de l'Assemblée générale de l'ONU? Retrouvons une fois de plus Cynthia Bachizi.
C'est le Conseil de sécurité qui établit et définit les modalités pratiques pour le déploiement d'une opération de maintien de la paix, le cas de la MONUSCO par exemple. Et bien évidemment, cela demande beaucoup de moyens, ainsi donc le financement de ces opérations à l'ensemble des États membres de l'ONU qui constituent l'Assemblée générale. Et le budget est adopté par la 5e commission avant d'être approuvé par l'Assemblée générale. D'où proviennent les ressources? Simplement des contributions obligatoires mais aussi volontaires des États membres. L'Assemblée générale définit la quote-part que doit verser chaque État membre. Cet organe tient compte notamment de la richesse économique relative de chaque pays. Mais aussi, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont tenus de verser une quote-part plus élevée en raison du rôle primordial qu'ils jouent en ce qui concerne le maintien de la paix et la sécurité internationale. Ainsi, les 5 plus gros contributeurs au budget de l'ONU sont les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. À eux seuls, pour l'année 2021, ils ont pris en charge plus de 60% des dépenses relatives aux opérations de maintien de la paix. Il est clair que sans cotisation des États membres, il sera difficile pour les opérations de maintien de la paix d'aider les pays touchés par les conflits à créer des conditions pour un retour à la paix. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Environ 5% des financements des actions humanitaires seulement passent par les acteurs locaux. Ceux-ci sont souvent préjudiciés par les critères d'éligibilité élaborés par les bailleurs. Conséquence, l'impact de la plupart des projets reste discutable. Il faut donc changer de philosophie, ce à quoi s'est engagé l'ONG internationale Street Child qui organise à Goma et à Kinshasa un atelier pour mettre cette question sur la table. Dans cette édition, le magazine des Nations Unies reçoit le directeur régional de Street Child, Jean-Claude Bakwabaya Muindo, qui s'entretient avec Honoré Missinga Kalala.
Jean-Claude Muindo, bonjour.
Bonjour, monsieur Honoré.
Street Child organise un atelier sur la localisation dans l'action humanitaire. Cet atelier se fera en deux temps et à deux endroits, Goma le 28 avril et Kinshasa le 5 mai prochain. Avant de parler de ce double forum, en gros, c'est quoi Street Child, une ONG des droits de l'homme, une organisation humanitaire et quelle est sa couverture géographique?
Merci beaucoup pour la question. Street Child, c'est une organisation international des droits britanniques, c'est pourquoi nous nous appelons Street Child UK. Alors, nous sommes actifs dans plus de 21 pays au monde, notamment les pays les plus affectés par les conflits multiformes, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Pour la RDC spécifiquement, c'est pratiquement plus de 15 ans que nous sommes actifs en RDC, mais notre approche a toujours été de travailler à travers les ONG dites contacts locaux.
Vous êtes en RDC, ça fait 15 ans, mais vous couvrez aussi le Burundi, je vois aussi à la République centrafricaine.
Absolument. Donc, mon rôle en tant que directeur régional pour la région des Grands Lacs, effectivement, donc nous couvrons la RDC, le Rwanda, le Burundi et depuis un moment aussi la République centrafricaine, où d'ailleurs nous irons pratiquement pour une autre conférence débat, précisément le 15 mai.
Venons-en maintenant à l'atelier lui-même. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par la localisation dans l'action humanitaire?
Alors, la localisation dans l'action humanitaire, c'est un concept émergent qui vient pratiquement de ce qu'on appelle aujourd'hui les grands baguennes. Donc, les résultats du plus grand sommet humanitaire mondial qui a eu lieu à Istanbul en 2016, qui a réuni certains des grands bailleurs humanitaires, certains membres des gouvernements donateurs, les ONG internationales, en tout cas les plus connues, hein, les agences des Nations Unies. La clé de voûte autour de leur discussion dans les sommets, c'était comment nous assurer qu'il y a beaucoup plus de financement entre les mains des plus vulnérables, c'est-à-dire de ceux qui sont véritablement sur terrain. Et ça, c'était donc une recommandation du groupe de travail de ce sommet-là, qui se sont engagés collectivement que désormais, il faut qu'au minimum autour de 25% de financement humanitaire soit entre les mains de ces acteurs locaux qui sont les premiers sur terrain. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'impact dans les actions humanitaires, ça reste un tout petit peu discutable. Maintenant, là, la décision a été prise que non, c'était vraiment un engagement. Il faut absolument essayer un peu de créer ce paradigme où il y aura beaucoup plus de financement entre les mains de ces ONG. Parce que lorsqu'il y a des crises humanitaires, elles sont parfois les premières sur le front. Et nous, les grandes ONG, nous venons parfois avec retard, 2 mois après, 3 mois après, 6 mois après. Mais si vraiment on doit sauver les vies, c'est immédiatement. Et ceux qui sont dans les communautés, ceux qui sont issus des communautés, sont, à mon avis, les mieux indiqués pour commencer à aider, peut-être même à élargir l'action humanitaire dans des zones où les internationales ne peuvent pas nécessairement arriver.
Donc, l'idée, c'est que pour qu'il y ait plus d'impact des actions humanitaires, il faut impliquer les acteurs locaux.
Absolument, absolument. On ne dit pas que les ONG internationales n'ont pas d'impact, mais on aura beaucoup plus d'impact si nous essayons d'arrondir nos angles en renforçant les capacités des acteurs locaux, de sorte qu'elles soient en mesure d'aller plus loin que nous. Parce que naturellement, elles peuvent aller plus loin que nous. Elles sont plus acceptées dans les communautés que les grandes ONG, parce qu'elles sont naturellement ici des communautés.
Voilà. Alors, est-ce qu'on pouvait revenir sur les objectifs que se fixe votre ONG en organisant cet atelier?
C'est une activité d'un projet triennal de Street Child, qui est l'un des leaders radicaux dans la localisation. Pourquoi ça? Parce que avec beaucoup d'autres organisations, il y a quand même une sorte de prise de conscience qu'on doit changer les choses, parce que voilà, ça fait maintenant pratiquement 6 ans depuis ce sommet dont j'ai évoqué. Nos évaluations qui nous ont poussés à développer ces grands projets nous ont montré que malgré les engagements, malgré les bonnes intentions, en réalité, la communauté humanitaire n'a pas avancé dans la localisation. Notre évaluation nous a montré que 99% des propositions, des projets qui sont soumis au bailleur et même acceptés mentionnent le mot localisation. Disent nous appuyons les acteurs locaux. Mais en réalité, dans la pratique, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Parce qu'on a à peine démontré que seulement 5% des financements entrent ou touchent ou arrivent entre les mains de ces acteurs qui sont véritablement au front plus que les acteurs internationaux. Et du coup, si pendant 6 ans, c'est difficile d'arriver à 20-25%, non, il faut un réveil sérieux, il faut une prise de conscience. Et donc, c'est autour de ça, maintenant, que cette activité veut réunir encore et mettre ensemble tous ses partenaires, rediscuter de la question, parce que nous venions déjà de réaliser un travail de fond sur les diagnostics institutionnels de plus de 40 organisations locales, dont 20 en RDC, où nous avons, d'une façon plus détaillée, touché tous les aspects organisationnels qui feront qu'une organisation soit véritablement appelée une organisation forte. Nous avons identifié des faiblesses, nous nous sommes donc même approchés des ONG internationales pour comprendre quels sont les goulots d'étranglement. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à décoller dans ce secteur? Alors, cet atelier donc veut remettre encore la question sur la table pour que nous nous questionnions maintenant sur l'après. que devrions-nous faire collectivement pour commencer quand même à avoir des résultats dans ce sens, avoir des ONG locales qui commencent à accéder librement au financement sans nécessairement avoir à être conditionné par des critères qui sont parfois rendus hyper compliqués pour eux parce que naturellement étiquetés à faible capacité. C'est autour de ça que nous aimerions réunir tout le monde et rediscuter, dire que devrions-nous faire de sorte que d'ici quelques années nous soyons en mesure de dire voilà, il est possible de faire confiance à ces ONG nationales lorsqu'elles sont formées, lorsqu'elles sont capacitées. En tant qu'institution, elles peuvent amener nos actions beaucoup plus loin que lorsque nous essayons de les faire nous-mêmes.
Oui, alors maintenant, après ces discussions à Goma, ici à Kinshasa, quelle va être la prochaine étape?
Cette conférence clôture la première phase, qui a donc consisté en ce diagnostic approfondi, où on a fait des sautes analyses, on est vraiment allé plus loin. Maintenant, la prochaine étape, qui va s'étendre sur deux, même plusieurs années, c'est que nous allons travailler avec ces ONG locales pour développer les ODI. ODI, c'est quoi? Organizational Development, donc développement organisationnel, ou alors plan d'amélioration des performances, qui va donc nous permettre de commencer à les construire avec le temps dans ce que nous appelons partenariat localisant. C'est-à-dire, nous co-développons avec des programmes, des projets, nous les aidons à comprendre comment nous faisons, comment les autres font, qu'est-ce qui plaît aux bailleurs. Au même moment, nous poussons les plaidoyers avec les bailleurs pour qu'il y ait de plus en plus des critères de l'éligibilité des ONG nationales au financement soient revus pour qu'elles aient aussi un peu d'accès ou plus d'accès qu'auparavant.
Jean-Claude Mouindo, merci.
En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour ce temps.
Nous nous venons plus bref. Lutter efficacement contre les maladies animales transfrontalières, c'est le but d'un projet d'appui de la FAO à Goma, en Nord-Kivu. Portant sur la réhabilitation du laboratoire vétérinaire, ce projet a été au centre d'une séance de travail la semaine dernière entre le vice-gouverneur de province et une délégation de la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une séance de travail qui a suivi la mission d'évaluation des besoins et actions à entreprendre pour concrétiser le dit projet qui permettra notamment de créer de nouvelles unités capables de détecter des maladies zoonotiques telles la rage, la grippe aviaire, la maladie à virus Ebola, le COVID-19 et la variole du singe. De Goma allons à Komanda, en Ituri, avec la MONUSCO, dans le cadre de ses projets de réduction des violences communautaires. La mission onusienne installe depuis quelques jours au centre de cette contrée une trentaine de poteaux d'éclairage public pour un coût global évalué à 47 570 dollars américains. Komanda, c'est à 75 km à l'ouest de Boudia. Ce projet a donné de l'emploi à une quarantaine de personnes, dont 14 femmes vulnérables et 13 ex-combattants. Gustave Kakani de la société civile locale a remercié la MONUSCO pour ce projet qui va permettre, espère-t-il, de diminuer la criminalité et les vols dans le centre de Komanda. Enfin, le chef intérimaire du bureau de la MONUSCO, Beni Boutembo Lubero Abdourahman, a reçu cette semaine les responsables de l'ONG Solidarité des Femmes pour la Paix et le Développement Intégral, Sophie Padi. Selon Rodrigue Collins, Nkasembere, chargé du programme au sein de cette organisation, les échanges avec le responsable de ce bureau de la mission de l'ONU ont tourné autour de la problématique de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale dans la région de Beni.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies vous propose encore l'entretien que M. l'abbé Baudouin Missingui a accordé à Radio Okapi mercredi à Goma. L'abbé Missingui, c'est le coordonnateur régional de l'ONG Centre international de paix et de développement humain au Grand Lac, CIPDH en sigle. L'entretien tourne autour de la campagne Enfants pour la paix que son organisation a lancée en vue de combattre dans les esprits la culture de la guerre. L'abbé Baudouin Missingui répond aux questions de Bernard Denyangui.
Monsieur l'abbé Baudouin Missingui, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour monsieur les journalistes.
Alors aujourd'hui vous venez de lancer la campagne dénommée Les Enfants de la Paix. La campagne consiste d'abord à faire quoi exactement?
La campagne consiste à faire de tous les enfants des ambassadeurs de la paix, avec un seul objectif, de couper la chaîne de transmission de la culture de la guerre, la culture des conflits dans la sous-région des Grands Lacs.
Donc vous êtes parti du constat que les enfants sont des acteurs de la violence ou bien les enfants sont instrumentalisés pour participer dans la culture de la guerre?
Les enfants ne sont pas acteurs de la guerre ni des conflits, mais nous sommes dans une région à conflit, une région qui vient de connaître plus de 30 ans de guerre. Et les victimes, c'est tout le monde, les vieux, les adultes, les jeunes, les enfants. Mais parmi les victimes, le plus vulnérable, ce sont les enfants. 30 ans déjà, donc des générations qui connaissent la guerre, des générations expertes en guerre, en conflit. Et si nous lançons la campagne « Les enfants de la paix », c'est pour que nous puissions résoudre les problèmes. Depuis très longtemps, on a cherché à résoudre les problèmes pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait les droits humains dans la région des Grands Lacs. On ne trouve pas de solution. Pourquoi? Parce que peut-être nous croyons que nous nous attaquons aux conséquences. Nous ne nous attaquons pas aux causes.
Et comment vous allez y parvenir? Comment vous allez procéder?
Nous procédons en sensibilisant les enfants, en encadrant les enfants, parce qu'il y a déjà des catégories. Il y a des enfants qui sont déjà très affectés, les enfants qui sont en train d'être affectés, les enfants qui sont peut-être à une certaine distance et ne sont pas encore affectés. Nous devons sensibiliser tous ces enfants pour qu'ils ne puissent pas nourrir dans leur mentalité, dans leur vie, une culture de vengeance, une culture de guerre.
Vous allez y aller comment? Maison par maison? Ou bien vous serez en train de passer dans des écoles? Comment vous allez procéder?
Nous n'irons pas maison par maison, mais nous avons nos stratégies. La première stratégie, par exemple, comme nous allons utiliser les médias, comme la radio Capi, pour essayer d'atteindre des couches. Nous aurons des espaces avec les radios communautaires pour essayer d'atteindre les familles et les enfants. Nous aurons aussi à animer dans des écoles. Dans certains milieux, nous allons cibler des écoles pilotes, des écoles que nous supposons héberger beaucoup d'enfants. Et dans ces écoles, nous animons. Et les enfants qui ne sont pas à l'école, comme par exemple dans des camps de déplacés, nous allons envoyer nos ambassadeurs dans des camps de déplacés. Nous allons créer des espaces d'encadrement aussi d'enfants pour que chaque enfant au moins ait le message, pour que l'enfant soit encadré, pour que chaque enfant soit instruit et suivi, pour que son avenir devienne meilleur. Les enfants eux-mêmes deviendront à la fin des ambassadeurs de la paix, c'est-à-dire ils vont être nos animateurs aussi dans leur milieu, en famille, à l'école ou n'importe où qu'ils soient.
Et généralement, en fait, quand on parle des campagnes, c'est limité dans le temps et dans l'espace. Pour vous, aujourd'hui c'est le lancement, donc ce sera un mois, six mois, et ça va couvrir quel espace?
Aujourd'hui, nous venons de lancer la campagne. Nous nous attelons d'abord sur la partie est, et notamment territoire de Masisi, les Rutshuru, les Ben Lubero et une partie du sud Kivu dans le premier
donc,
temps.
On parle de Calais.
Oui, de Calais dans le premier temps. Et nous sommes fixés un délai de 5 ans. La première phase, elle est de 2 ans. Et voilà ce que ça va donner comme résultat. Au bout de 2 ans, nous pourrons revoir les défaillances et améliorer peut-être d'autres stratégies pour aller jusqu'au bout de 5 ans et voir ce que ça va donner.
Et quel sera le message que vous allez transmettre pour parvenir à convaincre?
Les enfants, ils ne sont pas seulement des personnes à manier, ils sont des personnes aussi qui doivent préparer l'avenir parce que plus tard, ce sont eux qui vont diriger la société. Et cela se prépare dès le bas âge. Alors les enfants, ils sont aussi acteurs parce que ceux qui seront demain ou après demain sensibilisés à rejoindre les milices, c'est ceux qui sont aujourd'hui enfants. S'ils n'ont pas cette mentalité de la paix, ils vont appartenir à ces groupes armés et ils vont encore déstabiliser la région.
Monsieur l'abbé Baudouin Missingui, merci.
Sept lycéens de Kinshasa ont remporté des prix du concours de dictée organisé par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite ACOFEP avec le concours de la MONUSCO et de l'UNESCO, un concours organisé en marge de la Journée internationale de la langue française, célébrée le 20 mars de chaque année depuis son institution en 1988. La cérémonie officielle de remise des prix a eu lieu au Cercle Elaïs à Kinshasa Gombe. Le chef de la division de l'information publique de la mission onusienne en RDC, Christophe Boulirak, a été représenté par David Fungi. Reportage Jeff Opela et Vanessa Kongolo.
Noble premier lauréate. Elle s'appelle Nkayilu Diakeshe.
Elle a écrit sans faute.
Élève en cinquième année primaire à l'Institut Providence Divine, Kayilou Diakese Providence, 11 ans, a remporté la première place avec une couronne de la meilleure dictée sans aucune faute d'orthographe.
Ce prix représente une très grande chose pour moi, car ça a fait la joie de mes parents et la joie de mes enseignants, de mes professeurs, parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir être exploité aux yeux de tout le monde. Et c'est aussi une grande joie parce que mes parents seront très fiers de moi. J'aurais voulu qu'ils puissent être là, mais ils n'ont pas pu être là parce qu'ils avaient des engagements. Mais je suis très fière de représenter mon école grâce à la MONUSCO.
Accompagné à la lauréate, Adrienne Mamboulou, conseiller pédagogique dans son école, plaide pour la construction des bibliothèques dans les écoles.
Maintenir d'abord la qualité de l'enseignement que nous donnons aux enfants, et puis créer les moyens, avoir par exemple ce qu'on a demandé ici, la bibliothèque, mettre au profit des enfants les manuels qui leur permettront de tout le temps lire et être en contact avec la culture et la langue française.
Pour sa part, Madame Lydie, présidente des enseignants du collège Monseigneur Moquet, a profité de l'occasion pour interpeller les parents au contrôle des enfants.
Les parents aujourd'hui achètent un téléphone donné à l'enfant, mais on ne pense pas acheter un livre, une revue aux enfants, ni un dictionnaire. Nous pensons que c'est rendre nos enfants à la mode, mais je vous dis que le téléphone détruit, le téléphone c'est une grande distraction.
Gracien Guiquet, coordonnatrice de la COFEP, a remercié les responsables des écoles et des partenaires pour la réussite de la 4e édition.
Le but principal de ces concours est de réconcilier les élèves avec l'usage de la langue française, les stimuler à la culture de la lecture pour une amélioration de leur écriture, ainsi que promouvoir le bon usage de la langue française chez les lycéens avec la dictée. Un grand merci à toutes ces écoles pour leur franche collaboration avec notre staff d'ACOFEP dans le préparatif de cette compétition.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Le MAGUN revient sur la question relative à l'application ou non du chapitre 7 par la MONUSCO qui a été posée à la conférence des presse des Nations Unies du mercredi 20 avril dernier. Le porte-parole de la mission, Mathias Gilman, y avait répondu. Suivez.
Vous avez tout à fait le droit d'avoir votre opinion sur ce qui a été appliqué ou pas, mais nous sommes clairement sous le chapitre 7 et nous réagissons du mieux qu'on peut. En tout cas, c'est notre devoir. Peut-être que parfois ça ne s'est pas produit, mais c'est notre devoir et c'est notre responsabilité d'intervenir quand il y a des menaces directes sur une population civile. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous essayons de faire au mieux, sachant encore une fois que nous travaillons dans des zones où la présence de l'autorité de l'État est extrêmement faible, les infrastructures sont extrêmement faibles, donc il arrive effectivement qu'on arrive trop tard. Mais nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être le plus agile possible et nous intervenons de manière robuste aux côtés de votre armée et nous rentrons en confrontation directe avec les groupes armés. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la Codeco, c'est également avec les ADF. Vous savez, nous avons perdu un casque bleu il y a 2 semaines. Nous avons en tout 400 membres du personnel qui sont morts au Congo au service de la paix. Et donc je pense que s'il doit y avoir une preuve du fait que nous sommes effectivement engagés de manière résolue et active contre les groupes armés en faveur de la protection de la population, c'est ce chiffre terrible qui fait de la République démocratique du Congo un des pays où le plus de casques bleus sont morts.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30 heure de Kinshasa sur Radio Capi.
Prenez note dans vos agendas, le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté avec l'UNESCO. Le MAGUN couvrira à Kinshasa les activités y et relatives. La fin de cette émission, vous pourrez la retrouver sur le site www.radiocapi.net, Radio Capi en un seul mot. Merci de votre attention. Merci également à Patrick Yassongwa qui en a assuré la coordination technique. Moi, c'est Babel Pongomassimango. C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinakalala. Restez toujours à l'écoute de la Radio de la Paix pour la suite de nos programmes. Toute l'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain.